Dans nos réflexions sur la vie de David, David était un homme de caractère, comme nous l'avons déjà constaté, remarqué, quelqu'un qui était bien ferme dans ses voies pour suivre Dieu, malgré les attaques de la part de Saul, de son ennemi, et on peut constater que Dieu l'a préparé et Dieu l'a béni. Et j'aimerais voir avec vous ce matin que Dieu le prépare pour son rôle de leader, de responsable, et nous, mes frères et sœurs, nous sommes aussi en préparation d'ici-bas. Nous ne vivrons pas ici-bas éternellement. Dieu nous prépare pour aller avec lui pour l'éternité. Donc c'est un genre de stage. Et nous pouvons aussi apprendre avec David, qui était réfugié avec 600 hommes contre 3000 dans une caverne, dans une grotte. Et c'est là où David, il se réfugie, il fait confiance à Dieu. Quand Saul vient pour aller aux toilettes, il entre dans la caverne et la grotte était immense. Il ne voit plus rien. Il ne voit pas au fond de cette même caverne, la grotte, 600 hommes armés, formés, combattants, prêts à mettre fin à sa vie. Et quand il est au plus vulnérable, David est poussé par ses hommes pour aller mettre fin à sa vie. 1 Samuel 24, comment réagissons-nous, quand il nous arrive le moment profitable, l'occasion? Comment ferons-nous? Serons-nous guidés par le moment, les pensées de notre cœur, de nos collègues, des gens autour de nous? Comment s'y prendre dans ces moments parfois décisifs, cruciaux? Regardons à 1 Samuel, chapitre 24, verset 5. Les compagnons de David lui chuchotèrent. Voici le moment annoncé par l'Éternel lorsqu'il t'a promis de te livrer ton ennemi pour que tu le traites comme bon te semble. Voici le moment. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Ils ont promis. Ils ont dit. Mais était-ce ces moments à en profiter? Comment réagir? Surtout face à une occasion contre la vulnérabilité de son ennemi. Alors David se leva, alla couper un pan du manteau de Saül, sans que celui-ci s'en aperçoive. Dès qu'il eut fait, son cœur se mit à battre très fort, parce qu'il avait coupé un pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes, « Que l'Éternel me garde de jamais faire une chose pareille, et de porter la main sur mon Seigneur à qui Dieu a conféré l'onction. » Car c'est de la part de l'Éternel qui l'a été loin. Et c'est par ces paroles que David arrêta ses hommes. Il ne le laissa pas se jeter sur Saul. Le roi sortit de la grotte et continua son chemin. Trois choses que nous pouvons apprendre de la vie de David pour bien mener sa vie. Où Dieu veille sur nous et Dieu nous donne des occasions à profiter ou à le respecter. Et Dieu veut bien, notre bien. Il nous aime. Il a envoyé le Christ pour mourir pour nous, pour nos fautes. Mais en même temps, comment réagir? Comment répondre à ces moments décisifs? Surtout quand notre ennemi ou quand la situation est là, où on peut mieux faire, on peut profiter pour contre son ennemi. Première chose que David a fait, est qu'il a veillé sur lui-même et sur ce qu'il a entendu. Les gens autour de lui ont dit « Avance-toi, mets fin. » D'après tout, il nous en veut. Il va nous tuer tous. Et donc, ces 600 hommes qui attendaient cette occasion poussent et encouragent David à agir. Et c'est là où David se lève, il prend son épée et il commence à couper, pas sur Saül, le roi, son ennemi, qui, de par plusieurs reprises, a déjà manqué à le tuer de justesse. Et il prend plutôt son manteau, il coupe un morceau et puis il fait marche arrière. Il laisse la vie sauve à son ennemi. Mais imaginons que ces 600 combattants qui sont prêts, qui n'attendaient que l'ennemi avoué, acharné, ne meure, et qu'on voit David revenir avec un morceau du manteau du roi. Et c'est là où on voit le caractère de celui que Dieu était en train de former. Et David, voici ses paroles. Que l'Éternel me garde de jamais faire une chose pareille et de porter la main sur mon Seigneur à qui Dieu a conféré l'onction, car c'est de la part de l'Éternel qu'il a dit loin. Mais David, tu déraisonnes. C'est quoi? Tu es militant, tu es guerrier, tu es homme de l'armée, chef de l'armée, et toi, tu te le tues pas. Parce que David, il avait compris une autre loi. Et ça, c'était que depuis longtemps, David, depuis qu'il avait fait face aux géants, aux lions, aux ours, à Saoul, il fait confiance à l'Éternel pour régler sa vie. Et de deux, cet homme-là a été oint, bien que déchu, il a été oint de l'Éternel pour mener le peuple de Dieu. Or, oint, ça veut dire Messie, ça veut dire Christ. Il avait reçu l'Esprit, bien que Samuel lui ait dit, tu ne régneras plus. Et Saoul s'était entêté, et Saoul a voulu faire mettre fin à la vie de David. Mais David, il avait compris que c'est Dieu qui le oint, et c'est Dieu qui l'a dit qu'il ne serait plus roi, c'est Dieu aussi qui dispose du moment et du moyen pour l'enlever. Et lui, il ne le freinerait jamais cette loi. Pourquoi? Parce que David avait cette onction aussi de Dieu. Et David se préparait pour conduire un peuple, pas vers leur démise, pas vers leur déchéance, mais vers un avenir qui était prospère. Et David confiait sa vie et il agissait pas selon l'occasion, pas selon le conseil d'autrui autour de lui, pas selon son cœur, mais selon Dieu. Dieu là loin, moi je ne peux pas. On voit ici un des points forts de David, où il était aussi au moins moment où il aurait pu avancer. C'est lui le prochain roi. L'ennemi était en face. Il était déjà destitué par Samuel. Pourquoi ne pas mettre fin? Parce que Dieu l'a tout de même oint et nommé roi. Nous avons aussi autour de nous des personnes qui nous font faux bond. Des collègues, des parents, des enfants, des voisins, que sait-on? Les profs qui lisent l'examen et qui le marquent d'une façon, ou le licenciement abusif, ou on peut continuer. Et autant que nous serons dans la chair humaine, nous allons faire face à de l'injustice et des situations où seul Dieu a le moyen vraiment de voir, de connaître ce qui est dans notre cœur et ce qui est dans le cœur de notre ennemi, et pour juger. David jouait-il de le faux pas? Était-il maladroit ici? Avait-il peur? Ou était-il sage pour reconnaître que c'était Dieu qui loint, qui élève, qui destitue? Nous avons aussi nous-mêmes à faire face à des situations où ce n'est pas toujours facile, où ce n'est pas toujours évident pour nous à décider que faire. Nous aurons aussi des moments décisifs où nous pouvons avancer, nous avancer, nous pouvons profiter. Mais David avait depuis longtemps cultivé dans sa vie cet égard pour Dieu, pour suivre ce que Dieu dit. Et quand le moment était là, il n'agissait pas selon la gré de son cœur non plus, les encouragements de ses camarades, mais plutôt selon Dieu. Et David, son cœur battait très fort à cause de ce qu'il avait fait. Daniel, ce matin, nous a rappelé que quand nous nous approchons de Dieu, Dieu départ, il nous serre dans ses bras comme le papa. Mais quand nous grandissons, Dieu nous prend par la main. Et parfois aussi, il nous met dans les situations où nous devons apprendre à marcher sans voir, sans savoir, à apprendre sa voix, connaître sa voix, la voix du bon berger qui nous conduit et de nous laisser guider par lui. Et Daniel nous l'a rappelé que parfois, le plus qu'on s'approche de Dieu, le plus que notre cœur devient sensible au sien et attristé par le péché, par ce qui fait le mal ou l'injustice, que ce soit en nous ou que ce soit autour de nous. Le fait que le cœur de David batte fort n'était pas parce qu'il était lâche ou parce qu'il ne savait pas quoi faire. C'était un guerrier. Mais c'était parce qu'il savait que Dieu avait disposé de l'onction comme lui il voulait. Et c'était Dieu qui donne et Dieu qui enlève. Et son cœur battait fort parce qu'il avait effreint de justesse ce principe. Et lui qui était le futur roi d'Israël, devant le roi démise et déchu, frôlait un danger de ne pas respecter cette onction. Comment allait-il régner si lui-même il met sa main sur le roi? Comment lui allait-il commander le respect des autres? Et son cœur battait fort parce qu'il aimait Dieu, parce qu'il connaissait Dieu et parce qu'il avait peur d'avoir trépassé ce principe, les lois de Dieu. Là où notre cœur ne bat plus, là où notre conscience n'est plus douloureuse ou devient insensible, endormie, là où on peut faire sans savoir ce qu'on fait, c'est là où plutôt au contraire, nous sommes sur un mauvais pas, une pente qui est dangereuse. Mais d'avoir un cœur qui batte quand on effreint la loi de Dieu, les principes de Dieu ou la personne de Dieu, eh bien, est utile pour notre salut, parce que Dieu nous aime et parce que Dieu nous forme pour faire plus, pour porter du fruit, pour faire aussi quelque chose pour lui et être avec lui. Alors quand personne ne regarde et on peut prendre, on peut embarquer de son entreprise les ramettes ou des, je ne sais pas, et notre cœur ne dit non, c'est pas bon. C'est là où Dieu, il est à l'œuvre, quand notre cœur devient sensible. Deuxième principe que nous voyons dans le cœur, dans la vie de David ici, est qu'il suit l'Éternel face aux attitudes des autres. Il ne dépendait pas des autres, il dépendait de Dieu. Et plutôt d'être celui qui était mené, il se démontre celui qui est capable de mener et de diriger d'autres. Il y a un principe. Si on respecte l'autorité, on saurait gérer l'autorité. Et si on sait se soumettre, on saura guider les autres et aider les autres. Et David, ici, il démontre par excellence ce principe. Dans les versets qui suivent, il reprend ces hommes. D'une part, mais aussi, il va plus loin, il sort de la caverne, il se tourne maintenant vers Saül. Verset 9. Alors David sortit de la grotte derrière lui et appela Saül. « Mon seigneur le roi, Saul se retourna et David s'inclina respectueusement, les visages contre terre, et se prosterna. Puis il dit à Saul, « Pourquoi écoutes-tu, ce que te disent et que cherchent à te nuire? Aujourd'hui même, tu vois de tes yeux que l'Éternel t'avait livré en mon pouvoir dans la grotte. On me disait de te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il a reçu l'onction de la part de l'Éternel. Regarde, ô mon Père, oui, regarde ce que je tiens dans ma main, un pan de ton manteau. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, reconnais donc qu'il a de ma part ni malveillance ni révolte, que je n'ai aucun tort envers toi. Alors que toi, tu me traques pour m'ôter la vie. Que l'Éternel juge entre toi et moi, et qu'il te fasse payer le mal que tu m'as fait. Mais moi, je ne porterai pas la main sur toi. Comme le dit le vieux proverbe, du méchant vient la méchanceté. Mais je ne porterai pas la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël est-il parti en guerre? Qui poursuis-tu? Un chien mort? Une misérable puce. Oui, l'Éternel sera notre juge et prononcera son verdict entre moi et toi. Qu'il examine, qu'il défende ma cause, qu'il me fasse justice et me délivre de toi. David ici, il suit le principe aussi, comme le leader, il était. Il n'osait pas lui-même faire justice, parce que notre colère ne voit pas tout, et d'après tout, c'était un homme comme lui, mais aussi un homme qui avait reçu l'onction d'être roi. Mais non plus, il ne s'est pas retourné dans la grotte, simplement pour se cacher. Il y avait une occasion, mais ce n'était pas l'occasion pour la justice humaine. C'était plutôt l'occasion de prévenir, d'avertir et de dire solennellement ce que l'autre devrait faire. Regardons ce qu'il dit encore David. Dans le verset 8, il lui montre du respect. Bien qu'il soit pourchassé et qu'il s'échappe à des lances et à son armée de 3000, 5 contre 1 à plusieurs reprises. De 2. Il lui demande, verset 9, si le roi n'avait pas écouté l'injustice à son égard, des calomnies vers contre lui. Ce que Saul disait du mal sur David, alors que David, il ne prêtait même pas de sa langue jamais de mauvaises intentions contre Saul. Quoique ici, c'est extrêmement important parce que nous avons une épée qui est dans notre bouche dont nous pouvons nous servir facilement pour détruire. Jacques, le frère de Jésus, le pasteur à l'église de Jérusalem, le dit, qui peut brider la langue? Elle est là pour détruire et aussi pour bénir Dieu. Mais comment peut-on avoir d'une même source de l'eau douce et de l'eau salée? Un arbre qui porte du fruit et un arbre qui porte des épines, nous dit-il. David, ici, donc, il prend la parole pour s'adresser à Saul, pour l'avertir. As-tu écouté de mauvaises choses, de mauvais conseils à mon égard? Verset 11. Puis David faisait appel à ses propres actions. Parce que quand on a un doute sur le comportement de l'autre, on peut se fier à ses actions. Même si ses paroles, on ne sait pas où il va aller. Mais son comportement est là. Et David lui montre le pan de sa robe, de son manteau. Il ne l'a pas tué, mais il aurait pu. Verset 12. Il affirmait que son cœur était innocent de tout mauvais acte et de mauvaises intentions. Alors qu'en même temps, il déclare la mauvaise intention du roi. Et puis il termine en demandant que ce soit Dieu à deux reprises. Il demande que l'Éternel juge, que lui il prononce ce jugement. David qui se confie donc à l'Éternel. Il y a dans les proverbes, le fils Salomon, le fils de David qui a écrit, quand l'Éternel est bien disposé envers les voies de quelqu'un, il fait de sorte que même ses ennemis se tournent à sa faveur. Et c'est ça que David allait voir. Mais pour nous, comment faire face aux autres, soit qui s'opposent à nous, ou soit aux conseillers qui veulent nous dire ce qui est bon, ce qu'il a à faire. David, d'une part, les a repris ceux qui étaient sur le mauvais chemin, ceux autour de lui, mais aussi ceux en face de lui, qui ont volé à sa vie, il a aussi les a aussi repris, sans faire de mal. Rappelons-nous les paroles de Jésus-Christ, notre Seigneur, en Matthieu 18, versets 15 et 18. Si ton frère pêche contre toi, va le trouver et dis-lui pour qu'il ait une occasion d'entendre et de changer d'avis. Et tu as gagné ton frère. Il est évident que l'objectif, quand on va, c'est de parler, de présenter, d'expliquer, parfois d'entendre aussi des choses, d'être prêt à demander pardon, mais d'aller, de les dire, de donner à l'Esprit de Dieu une occasion de nous changer, de changer l'autre. C'est la règle de la communauté. Et si ton frère ne t'écoute pas, amène une tierce personne. Son rôle est justement d'être un médiateur, quelqu'un qui est impartial, qui pourrait essayer de faire comprendre aux deux la vie de l'un et de l'autre, pour qu'il y ait un échange. Et Jésus a même donné une troisième occasion, et si ça ne marche pas, on appelle d'autres, on dit devant l'Église. Mais il ne s'agit pas de simplement rester là, de ne rien dire, ou encore moins de dire des choses derrière l'autre. Il y a le pasteur Jim Tambala, Simbala, pardon, pasteur de l'église de Tabernacle de Brooklyn, au New York, qui a été interviewé, et il y avait un moment où l'église était au plus bas. Ils ont prié vraiment que le Seigneur, il agisse, il donne de sa vie, de sa grâce, de sa force à l'église pour ranimer cette flamme et cet amour pour le Seigneur et les uns pour les autres. Et lors de son interview, il disait la suite. Si on entend, excuse-moi pour ma traduction, c'est si on entend parler de quelqu'un qui fait porte du bruit à ce sujet d'un autre, si vous entendez une parole critique, ou si nous vous chargeons et nous vous demandons d'arrêter cette personne sur le champ, dis-leur, excuse-moi, est-ce que le pasteur ou une autre personne dans l'église vous a fait du mal? Ils vous présenteront leurs excuses. Venez avec moi maintenant au bureau du pasteur, je prendrai rendez-vous pour vous. Et le pasteur invitera la personne qui vous a blessé à venir et si nécessaire de s'agenouiller devant vous pour s'excuser. Mais nous ne permettons pas de parler derrière le dos, de calomnier, de faire courir le bruit. Nous ne pouvons pas aller à la prière et faire appel à Dieu. Seigneur, viens dans ta puissance. Et puis pendant la semaine, est triste de Saint-Esprit, par le bruit qui court et par les coups de fil. De toute chose qui tue la puissance de l'Esprit dans l'Église, c'est parler. Ils ont demandé donc aux membres de l'Église de simplement, si on entend parler, d'arrêter l'autre personne et de dire à la personne que vraiment s'il y a un mal qui était fait, dis-le-leur. L'autre, il peut s'excuser, ou il peut dialoguer, ou il y a à comprendre. Et ici, à l'église de plaisir, je crois que la même règle, parce que c'est le même esprit, qui est attristé. C'est aussi un membre, le membre, on demande au membre de protéger son église en agissant dans l'amour envers les autres membres, Romains 14, 15 et 1 Pierre 1, en refusant de médire, Éphésiens 4, 29, et en suivant les responsables, Hébreux 13, verset 17. Mais quand on prend entre nos mains ou par nos bouches à médire ou à dire ce qui est mal, c'est là où on coupe, où on met des freins, où on est triste l'esprit. Et lui, il ne pourrait pas bénir, agir comme il aurait souhaité. Que faire donc, tout simplement, comme David a fait? On va. David est allé avec le respect. Il a dit, est-ce que tu as écouté? Il a demandé aussi, voici ce que j'essaie de faire. Et puis, il essaie de convaincre l'autre personne, nommément Saul, ici. Et puis, il a laissé les résultats avec Dieu. Nous-mêmes, nous pouvons aller, parler avec l'autre personne, demander le pourquoi, ou ce qui est la situation, pour s'en renseigner davantage, demander pardon ou dire, si ton frère t'offense ou offense, va le lui dire. C'est notre responsabilité de le lui dire. Et c'est là où on sort de la grotte. Pas avec l'épée, pas avec la calomnie, mais avec la parole qui parle et qui confronte et qui s'adresse à l'autre personne pour dire où elle soit née. Le troisième principe que David a fait ici, c'était qu'il s'était donné à Dieu et se laissé à Dieu pour agir et pour faire justice. Mais c'est là où nous voyons agir le principe que Salomon, son fils, a dit, si nos voix sont favorablement disposées devant l'Éternel, c'est lui qui peut faire de sorte qu'il dispose nos ennemis à notre faveur. Dans le verset qui suit, voyons la réponse de Saül. Le verset 16 et suivant, ce chapitre 24. Quand David eut fini de parler ainsi, verset 17, à Saül, est-ce bien toi qui me parles, mon fils David? Il se mit à pleurer, à chaudes larmes. Puis il lui dit, « Tu es plus juste que moi. Tu m'as traité avec bonté, alors que moi, je t'ai fait du mal. Tu viens de montrer aujourd'hui que tu agis avec bonté envers moi, puisque l'Éternel m'a livré en ton pouvoir et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un surprend son ennemi, le laisse-t-il avec bienveillance poursuivre sa route? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait pour moi en ce jour. Maintenant, tu vois, je sais que tu seras certainement roi un jour et que le royaume d'Israël sera stable sous ton autorité. À présent, jure-moi seulement par l'Éternel que tu n'extermineras pas mes descendants après ma mort et que tu ne chercheras pas à faire disparaître mon nom de mon groupe familial. » Alors David le promit, pas seulement à Saül, qui retourna chez lui, tandis que David et ses compagnons regagnèrent leur refuge dans la montagne. Ce n'est pas à coup sûr, ce n'est pas automatique que de faire le bien, que notre ennemi va toujours répondre. Mais on voit quand même que David, Saül est ici, il avait compris, il a dit, tu es plus juste que moi. Mais il pleure. Il pleure pour plusieurs raisons. Peut-être d'une part parce que la vérité est incontournable. David qui est là devant lui, il avait toujours dit qu'il était innocent, qu'il faisait le bien. Alors là, il lui montre son pan du manteau et c'est maintenant incontournable. Ce roi Saül qui n'a pas voulu faire face aux faits est maintenant pris devant la vérité. Et il pleure parce qu'il sait qu'il s'était trompé. Il sait que David agissait avec justice et lui-même, il avait tort. Mais il pleure aussi parce qu'il sait que David sera, comme annoncé, le futur roi et pas lui. Et finalement, il pleure aussi parce que, comme quelqu'un a dit, il en est bien fatigué de pourchasser David dans la montagne, dans ces lieux arides. Il en avait assez. Ça ne servait à rien. C.S. Lewis a dit une chose qui est intéressante, celui qui était derrière le film Narnia, les deux volets, il a dit, il est toujours intéressant l'expérience. Excusez-moi, je cite un peu, je en paraphrase. Parce que l'expérience ne trompe pas. Quand on vit et on veut expérimenter la vie avec justice, on peut se fier à son expérience. Et roi Saül n'a pas voulu écouter. Au contraire, avec David. Mais c'était toujours David qui était prouvé d'être celui que Dieu bénissait, avec qui Dieu agissait. Et c'est là où l'expérience de nos vies nous montre que Dieu bénit. Et nous avons toute raison donc de nous mettre sous son autel toute notre vie, comme le roi David, qui malgré son état parfois difficile, très très difficile, Dieu était avec lui. Et quelque part, que ce soit aussi notre cas, que notre expérience démontre devant ceux aussi autour qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui ne croient pas en Dieu, qui puissent demander, mais pourquoi celui-là souffre-t-il? Pourquoi peut-on être malade? Pourquoi peut-on perdre son job? Pourquoi peut-on avoir des difficultés en tant que chrétien si Dieu est avec vous? Alors, ça n'est pas encore terminé pour le roi David en formation. Et ça n'est pas encore terminé pour nous non plus. Mais Dieu agit. Et faisons confiance à ce Dieu. Donc le roi Saül ne voulait pas écouter, mais finalement, il est obligé. Il arrive à l'écouter. Que l'Éternel te récompense, le roi Saül qui voulait tuer le béni, et puis, tout en reconnaissant David d'être meilleur, d'être juste, il demande à David, ce service, de ne pas tuer toute sa famille quand il deviendra roi. Promesse que David a gardée. David donc a gagné la victoire, non pas par la ruse, non pas par la force, l'intimidation, mais par la grâce et par l'humilité. La brutalité recule devant la vraie miséricorde et la justice qu'a démontré David dans sa simplicité. Quand on était au Tchad à faire la campagne d'évangélisation de village en village, quand on montait vers le nord où il y avait des rebelles ou des islamistes, et quand ils tapaient, ils persécutaient les chrétiens, les sudistes, et on revenait à la fin, ils disaient deux choses qui nous impressionnent chez vous. Premièrement, c'est la persécution. Comment vous y faites face? Et les ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui, comme Saül, qui sont pleins de haine, de désemparés, quand on peut voir la grâce, la vérité et la bonté d'un enfant de Dieu, c'est remarquable et ça bénit. L'autre aspect, c'était la vie de prière des chrétiens, où Dieu exauçait la prière, ce qu'on voit aussi chez David. Puisque l'homme est dépravé et que nous avons les mêmes cœurs que Saül, attendons-nous à être tentés par cette tentation subtile, comme a dit un auteur ou un commentateur que j'ai consulté, la vengeance. Quand c'est le moment propice à profiter de la solution, profiter de la vie ou profiter de renvoyer l'ascenseur, faisons attention, préparons-nous, parce que nous sommes faits de la même que Saül. Laissons l'Esprit de Dieu agir en nous, laissons-nous pénétrer par la parole de Jésus-Christ. Et puisque le désir pour la revanche est prévisible, refusez de combattre dans la chair, bien que ses conseillers lui ont dit d'attaquer, David était guidé par l'Esprit. Le secret est le pardon, le secret pour nous aussi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Aimez droit. Nos droits, quand on les bafoue, quand on nous accuse, qu'on nous enlève de ce qu'on a droit, le job, la maison, la santé, la famille, ce que Dieu nous prête. Faisons confiance à Dieu, pas recours à notre chair. Comment l'a fait David ? Vaincre donc le mal, pas le bien, a dit l'apôtre Paul. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ou encore dans le psaume 57, qu'il a écrit lors qu'il s'est réfugié dans la caverne. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie, ô Dieu très haut, ô Dieu qui agit en ma faveur, il m'enverra du salut. Tandis que mon persécuteur se répand en outrage, Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Deux hommes, Saül qui n'a pas entendu, qui refusait de se détourner de sa proie, et David qui s'était humilié, qui faisait confiance à Dieu, qui laissait tout sur l'autel, mais qui était courageux et qui, malgré tout, est allé avec justice, confronté et aimé. Nous avons souvent des choix à faire, souvent des situations où nous sommes appelés à choisir, et sur le champ, ce n'est pas facile, au moins que, comme David, nous ayons aussi fait confiance à l'Éternel et trouver en lui notre refuge. Que ce soit notre cas, parce que David, comme nous, l'Éternel veut nous sortir. Il veut nous préparer et aussi à régner avec lui pour l'éternité. Recevez ces paroles par l'Esprit et par la grâce de Jésus-Christ. Père Éternel, nous voulons nous remettre à toi et te demander. Tu connais nos cœurs, Père Éternel, et qui sont mis à l'épreuve, pour laquelle nous te remercions. Parce qu'il est bien que tu sondes ce qui est dedans. Mais en même temps, Seigneur, donne-nous le courage et la force de te faire confiance quand nous ne voyons pas. Et ainsi te laisser aussi faire justice. Et si aussi, Père, il y a des frères ou des sœurs qui ont quelque chose contre nous, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre une autre personne ici dans cette église, aide-nous à nous lever, comme a dit Jésus-Christ, à aller les trouver, à laisser là notre don sur l'autel, et d'aller les trouver, et de demander pardon, ou aussi de demander, de clarifier, de dialoguer sur le sujet. Ou comme a dit le Seigneur Jésus-Christ, si ton frère pêche, va le trouver. Dis-le-lui, pour gagner son frère. Et pitié de nous, Père éternel, pour que nous soyons, pas comme ce monde qui nous entoure, mais tout guidé par l'Esprit de Jésus-Christ, le même qui a aussi habité le roi David. C'est dans le nom de Christ que nous te prions. Amen. Voilà. Bon dimanche.